Chapitre 20. Le conspirateur. Le palais du maire, ou plus exactement l'ancien palais du maire, se dressait dans les ténèbres, forme vague et menaçante dans la nuit sans lumière. La ville était silencieuse et soumise au couvre-feu, et la brume laiteuse de la galaxie, où brillait çà et là une étoile solitaire, dominait le ciel de la Fondation. En 3 siècles, la Fondation, entreprise privée, initiée par un petit groupe de savants, était devenue un empire marchand tentaculaire, étendant ses ramifications jusqu'au cœur de la galaxie. Pourtant, 6 mois avaient suffi pour faire de cet empire, au fait de sa puissance, une province soumise parmi tant d'autres. Le capitaine Anne Preacher refusait de l'admettre. Le morne silence imposé à la ville une fois la nuit tombée, le palais sans lumière occupé par l'intrus, c'étaient là des symboles pourtant suffisamment éloquents. Mais le capitaine Anne Preacher, qui venait de franchir l'enceinte extérieure du palais avec une minuscule bombe atomique dissimulée sous sa langue, n'en avait cure. Une ombre approcha. Le capitaine baissa la tête.
Le système d'alarme n'a pas changé, capitaine,
murmura la voix presque inaudible.
Avancez. Il ne se déclenchera pas.
Le capitaine se baissa pour franchir le passage voûté et suivit le sentier bordé de fontaines vers ce qui avait été jadis le jardin d'Hindebourg. 4 mois plus tôt, jour pour jour, s'étaient produits les événements de la crypte du temps. De cela, il préférait ne pas se souvenir. Pourtant, une à une, les impressions qu'il en gardait lui revenaient, inopportunes, surtout la nuit. Le vieux Seldon et son discours plein de bienveillance. La consternation générale lorsqu'on s'était aperçu que ce qu'il disait ne correspondait plus à rien. Le désordre qui s'était ensuivi. Hindebourg inconscient dans ce ridicule costume d'apparat qui contrastait si fortement avec son visage défait. La foule affolée qui s'était aussitôt rassemblée, attendant sans bruit la capitulation inévitable. Le jeune Thoran, disparaissant par une porte latérale avec le bouffon du mulet sur son épaule. Et lui-même, qui avait quand même fini par sortir du bâtiment pour retrouver sa voiture hors d'état de marche. Il se revoyait se frayant un chemin à coups d'épaule à travers la cohue qui déjà quittait la ville pour une destination inconnue. Il se revoyait encore, rejoignant tant bien que mal, les uns après les autres, les anciens points de ralliement secrets d'une résistance démocratique dont le déclin s'était amorcé depuis plus de 80 ans. Personne. Nulle part. Le lendemain, des vaisseaux inconnus, noirs comme la nuit, avaient été aperçus quelques instants dans le ciel, puis ils étaient descendus en douceur et on les avait perdus de vue alors qu'ils s'enfonçaient entre les nombreux bâtiments de l'agglomération voisine. Le capitaine Anne Preacher avait senti le désespoir l'accabler. Il avait alors pris la route, pour de bon. En 30 jours, il avait parcouru plus de 300 kilomètres à pied, empruntant les vêtements d'un ouvrier des usines hydroponiques dont il avait trouvé le corps au bord de la route, et s'était laissé pousser une barbe hirsute d'un roux intense. Et il avait découvert ce qui restait du mouvement de résistance. Cela s'était passé à Newton, dans un faubourg résidentiel jadis élégant et qui déclinait lentement vers la misère. La maison était une maison comme les autres, et l'homme, un personnage trapu, aux yeux petits, dont on voyait les poings crispés dans ses poches et qui s'obstinait à rester sur le pas de sa porte, bloquant le passage.
« Je viens de la part de Miran, »
marmonna le capitaine.
« Miran est en avance cette année. »
dit l'homme répondant par la formule convenue.
« Pas plus que l'année dernière, » reprit le capitaine,
mais l'homme ne s'écartait toujours pas.
« Qui êtes-vous » demanda-t-il.
« Vous n'êtes pas le renard ? » « Vous répondez toujours par une autre question ?» Le capitaine se maîtrisa et dit
« Je suis Anne Preacher,
capitaine de la flotte
et membre du Parti démocratique clandestin. »
Allez-vous me laisser entrer ? Le renard s'écarta. « Mon vrai nom est Orum Pali, » dit-il en tendant la main. Le capitaine la serra. La pièce était bien tenue, mais sans ostentation. Dans un coin, on apercevait un magnifique projecteur de livre-film où l'œil exercé du capitaine militaire avant tout crut reconnaître un désintégrateur camouflé d'un calibre respectable. L'objectif était braqué sur la porte et pouvait sans doute, le cas échéant, s'il s'agissait bien d'une arme, être commandé à distance. Le renard suivit le regard de son visiteur barbu et sourit.
« Oui, c'est bien ce que vous pensez, » dit-il. Cela date du temps d'Hindebourg et des vampires qui étaient à sa solde. Une précaution au cas où. Mais ça ne servirait pas à grand-chose contre le mulet, hein? En fait, je me demande ce qui pourrait servir à quelque chose contre le mulet. Rien, sans doute. Vous avez faim?
Les mâchoires du capitaine se contractèrent sous sa barbe et il hocha la tête.
« Si ça ne vous ennuie pas d'attendre, j'en ai pour une minute. »
Le renard alla prendre des boîtes de conserve dans un placard et en plaça deux devant le capitaine Pritcher.
« Gardez le doigt dessus, et quand vous sentirez qu'elles sont assez chaudes, ouvrez-les. Mon thermostat est en panne. Ce sont des détails de ce genre qui vous empêchent d'oublier que nous sommes toujours en guerre. À moins qu'elle ne soit déjà terminée, sait-on jamais. »
Le ton qu'il avait employé avait instantanément démenti l'apparente jovialité de sa dernière remarque. Il demeura songeur un instant, le regard dur. Il s'assit en face du capitaine et dit
« Je vous préviens, s'il y a la moindre chose chez vous qui me déplaît, tout ce qu'il restera de vous à la fin de cet entretien, c'est une poignée de cendres chaudes dans le fond de votre siège. Vous en êtes conscient. »
Le capitaine ne répondit pas. Les boîtes devant lui s'ouvrirent sur une simple pression.
« Du ragoût, » dit brièvement le renard. « Désolé, mais le ravitaillement n'est pas facile. »«
Je sais, » dit le capitaine. Il mangea rapidement, sans lever les yeux de la nourriture.
« Je vous ai vu une fois déjà, » dit le renard. « J'essaie de me souvenir. Vous n'aviez pas de barbe alors ?»«
Ça fait 30 jours que je ne me suis pas rasé. »
Puis d'un ton âpre, il reprit.
« Qu'est-ce que vous voulez au juste ? J'avais les bons mots de passe. J'ai des papiers d'identité en règle. Oh !»
réagit l'autre en protestant de la main.
« Je vous accorde que vous êtes bien Pritcher, mais il y en a des tas qui ont les bons mots de passe. Des papiers en règle, l'identité qui va avec, et qui sont quand même avec le mulet. Levao, par exemple. Vous voyez qui c'est ? Oui, il est avec le mulet. Il, eh oui, plutôt mourir que de se rendre, qu'il disait.
Le renard esquissa un rire sans joie qui ne franchit pas même le seuil de ses lèvres.
Et Willing aussi, avec le mulet. Gare, et note avec le mulet. Alors pourquoi pas Pritcher? Comment voulez-vous que je le sache?
Le capitaine se contenta de secouer la tête.
« Mais ça n'a pas d'importance, »
murmura le renard.
« Ils doivent avoir mon nom, si Note est passé dans l'autre camp. Alors, si vous êtes bien celui que vous prétendez être, vous risquez finalement plus que moi, en venant me retrouver comme ça. »
Le capitaine avait fini de manger. Il se renversa en arrière. « Si vous n'avez pas d'organisation ici, où puis-je en trouver une? La fondation a peut-être capitulé, mais moi pas.
Tiens donc, Vous n'allez pas pouvoir errer d'une cache à une autre comme ça indéfiniment, capitaine. Les hommes de la Fondation doivent avoir des permis de circuler pour aller d'une ville à l'autre maintenant, vous le savez? Et aussi des cartes d'identité, vous en avez? Et puis tous les officiers de l'ancienne flotte ont été priés de se présenter au quartier général des forces d'occupation le plus proche. Ça vous concerne, ça, non?
Oui, reconnut le capitaine d'une voix dure. Vous croyez que c'est parce que j'ai peur que je me déplace comme ça en permanence? J'étais sur Kalgan peu de temps après la capitulation. Au bout d'un mois, aucun des officiers de l'ancien seigneur n'avait encore été libéré par le mulet. Tout simplement parce qu'ils constituaient des chefs militaires tout indiqués en cas de révolte. La résistance a toujours su qu'aucune révolution ne peut réussir sans le contrôle d'au moins une partie de la flotte. Le mulet le sait aussi, évidemment.
C'est assez logique, dit le renard en hochant la tête, l'air songeur. Le mulet ne laisse rien au hasard.
Je me suis débarrassé de mon uniforme dès que j'ai pu. J'ai laissé pousser ma barbe. Il y a peut-être une chance que d'autres en aient fait autant.
Vous êtes marié?
Ma femme est morte. Je n'ai pas d'enfant. On ne risque pas de vous faire chanter avec des otages, alors?
Non. Vous voulez mon avis?
Si vous en avez un.
J'ignore quelle est la politique du mulet, ou ce qu'il a l'intention de faire. Mais jusqu'à maintenant, on a laissé tranquilles les travailleurs spécialisés. Les salaires ont augmenté. L'armement atomique, tout secteur confondu, est en plein essor.
Ah oui? À vous entendre, on dirait bien qu'une nouvelle offensive se prépare.
Je ne sais pas. Il sait y faire, le mulet. Peut-être cherche-t-il tout simplement à se concilier les ouvriers. Si Seldon n'a pas été capable de le deviner avec toute sa psycho-histoire, ce n'est pas moi qui vais essayer.
Mais vous avez des vêtements de travailleurs?
C'est pas un hasard, si?
Je ne suis pas un ouvrier spécialisé.
Vous avez eu une formation en sciences nucléaires à l'école militaire, non?
Certainement.
Alors ça suffit.
La compagnie des roulements atomiques a ses locaux ici même, en ville.
Dites-leur que vous avez de l'expérience.
Les salopards qui faisaient tourner l'usine pour Hindebourg continuent à la faire fonctionner pour le mulet.
Ils ne vous poseront pas de questions dès l'instant qu'ils ont besoin de davantage de main-d'œuvre pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Ils vous donneront une carte d'identité et vous pourrez demander une chambre au service du logement de la corporation. Allez-y donc tout de suite, pourquoi attendre?
C'est ainsi que le capitaine Anne Pritcher de la flotte nationale devint le chaudronnier Lo Moreau de l'atelier 45. Et d'agent de service de renseignement, il descendit l'échelle sociale jusqu'au rôle de conspirateur. C'est ainsi qu'il se retrouva quelques mois plus tard dans l'ancien jardin privé d'Hindebourg. Dans le jardin, le capitaine Pritcher consulta le radiomètre qu'il tenait au creux de sa main. Le champ d'alarme intérieur fonctionnait toujours. Il attendit donc patiemment. La bombe atomique miniature qu'il avait dans la bouche en avait encore pour une demi-heure. Il la fit rouler avec précaution sous sa langue. L'écran du radiomètre devint d'un noir d'encre et le capitaine s'avança aussitôt. Pour l'instant, tout allait plutôt bien. Il songea froidement que la durée d'existence de la bombe atomique se confondait en fait avec la sienne, que la mort de la bombe signifiait sa propre mort et celle du mulet. Ce serait l'aboutissement grandiose d'une guerre personnelle qu'il menait seul depuis 4 mois. Une guerre qu'il avait conduit jusqu'à cette usine de Newton. Pendant 2 mois, le capitaine Pritcher avait porté des tabliers de plomb et de lourds masques de protection qui avaient eu tôt fait de lui faire perdre jusqu'au dernier soupçon d'allure militaire. En bon ouvrier, il touchait sa paix, passait ses soirées en ville et ne discutait jamais politique. Durant ces 2 mois, il ne vit pas le renard une seule fois. Puis, un beau jour, un homme trébucha en passant devant son établi, et il retrouva peu après un bout de papier dans sa poche. Le mot « renard » était écrit dessus. Il le jeta dans la chambre de combustion nucléaire, où le morceau de papier se volatilisa en produisant à peine un millionième de millivolt d'énergie. Preacher reprit ensuite son travail, comme si de rien n'était.